qu'on le programme pour quelques parasites.
Testing, testing, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testing.
Salve! Meu nome é Marcelo Gugu. Nesse exato momento você está ouvindo aí Até Que Enfim Gugu. Sejam bem-vindos ao meu mundo. Um dia a gente estava trocando ideia na porta de um rolê. Chegou um senhorzinho vestido de branco e disse assim pra gente, ó.
Dizem que somos espíritos eternos em busca de evolução através de aprendizado. Senhoras e senhores, eu me apresento, eu sou o funk reencarnado.
Ce matin, ça démarre dans 5 secondes avec Clotilde Dumay.
Il est 5h en temps universel, une heure de plus ici à Paris.
RFI Matin, Clotilde Dumay.
Bonjour à tous, on commence avec le journal international tout de suite. Bonjour Jeanne Bartoli.
Bonjour Clotilde et bonjour à tous.
Dans ce journal, des secouristes à l'œuvre dans le sud d'Israël hier soir.
Et dans un immeuble éventré à Arad où un missile iranien s'est écrasé alors qu'un autre missile a frappé la ville de Dimona qui abrite un centre stratégique de recherche nucléaire. L'Iran a dit riposter à une frappe contre un de ses complexes nucléaires à Natanz. On va faire le point dans un instant. Donald Trump lui lance un ultimatum au régime iranien si le détroit d'Hormuz n'est pas rouvert sous 48 heures. Les États-Unis anéantiront les infrastructures énergétiques de l'Iran. Dans cette édition aussi, Cuba touchée par la deuxième panne de courant national en moins d'une semaine. Le président colombien de gauche, Gustavo Petro, visé par deux enquêtes criminelles aux États-Unis. La guerre au Soudan et une attaque meurtrière contre un hôpital au Darfour Est. Et puis le second tour des municipales en France. C'est aujourd'hui, les bureaux de vote ouvrent dans 2 heures dans l'Hexagone.
C'est très certainement l'attaque la plus spectaculaire menée par l'Iran en Israël depuis le début de la guerre.
Et 2 missiles iraniens n'ont pas pu être interceptés hier soir par la défense antiaérienne israélienne. Résultat, un impact au sol dans un quartier résidentiel de la ville d'Arad et sur Dimona. Il y a une centaine de blessés. À Grégory Lesca, symboliquement, c'est un coup très rude porté à l'État hébreu.
Et oui, tout d'abord parce que l'armée a tenté, vous l'avez dit, d'intercepter ces missiles, mais n'a pas réussi. L'ampleur des dégâts et les bilans rappellent que le bouclier antimissile n'est pas infaillible. Mais ce qui ressort surtout, c'est que Téhéran a ciblé un centre de recherche nucléaire. Une réponse, selon l'armée iranienne, aux frappes contre le complexe nucléaire de Natanz un peu plus tôt. Israël nie toute implication dans ce bombardement. En revanche, l'État hébreu a revendiqué hier une frappe contre le centre universitaire Malek Ashtar, soupçonné de servir à développer des composants d'armes nucléaires. Ces frappes ont rapidement été dénoncées par le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, appelle à la retenue militaire maximale.
Alors l'escalade se poursuit dans la région, Grégory. La question énergétique est au cœur du conflit et Donald Trump menace désormais d'anéantir les infrastructures énergétiques de l'Iran si le détroit d'Hormuz n'est pas rouvert. Il fixe un ultimatum à Téhéran.
Oui, et c'est via Truth Social, son réseau social préféré, que Donald Trump s'est exprimé en lettres capitales, comme il sait faire. Il exige la réouverture complète du détroit d'Hormuz dans les 48 heures, sans quoi les États-Unis, dit-il, frapperont et anéantiront les centrales électriques iraniennes, en commençant par la plus importante. Il faut dire que depuis le début de la guerre, le prix du baril flambe, plus 33% en moyenne, et ce n'est pas bon pour Donald Trump vis-à-vis de son électorat. La réponse de Téhéran ne s'est pas faite attendre. Sur le même ton, si Washington met sa menace à exécution, l'armée iranienne visera à son tour les infrastructures énergétiques, de technologie de l'information et de dessalement d'eau dans la région. Œil pour œil, infrastructure pour infrastructure, dans ce bras de fer, peu de place pour l'apaisement. Hier, une vingtaine de pays, dont la France et l'Allemagne, se sont dit prêts à contribuer aux efforts nécessaires à la réouverture du détroit d'Hormuz.
Grégory Lesca, merci pour ces précisions. Et quelques heures après les frappes survenues dans le sud d'Israël, l'armée israélienne a dit mener des bombardements dans le centre de Téhéran sans donner plus de précisions.
La guerre au Moyen-Orient et ses conséquences bien loin de l'Iran et d'Israël.
Oui, exemple dans l'océan Indien où 253 marins iraniens sont bloqués au Sri Lanka depuis le début du conflit et personne ne sait quoi en faire. Certains d'entre eux sont des survivants d'un navire de guerre iranien qui a été torpillé par un sous-marin américain. Le gouvernement sri-lankais les a tous placés en détention protectrice. Et Alice Froussard, leur sort reste très incertain.
L'ambassadeur d'Iran au Sri Lanka a demandé le rapatriement immédiat des 253 marins, estimant que les deux pays n'étaient pas en guerre et qu'un accord devrait être possible. Mais le Sri Lanka hésite. Le pays est pris entre deux camps et veut garder ses bonnes relations à la fois avec l'Iran, mais aussi avec les États-Unis. Colombo cherche surtout à rester neutre. Ce n'est pas la première fois. Le Sri Lanka a déjà refusé une demande américaine d'atterrissage d'avions militaires. Mais cette fois, cette position complique la situation des 253 marins. C'est leur statut légal qui bloque, malgré des discussions quotidiennes entre des diplomates iraniens et les autorités sri-lankaises. Ils sont étroitement surveillés, placés dans des bases militaires et bien traités. Alors l'Iran ne les considère pas comme des prisonniers de guerre, le Sri Lanka n'étant pas impliqué dans le conflit. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut leur donner une liberté totale, tempère de son côté le ministère des Affaires étrangères sri-lankais. Autre problème, leur rapatriement. Un vol serait trop risqué à cause des frappes. Un bateau en mer, impossible aussi, car des sous-marins américains patrouille au large.
Alice Froussard.
Hier soir à Cuba, on a connu une deuxième panne de courant national en moins d'une semaine.
Et la septième en près d'un an et demi, alors que de l'aide humanitaire est affrétée ces derniers jours à Cuba. Une flottille en partance du Mexique notamment, qui est arrivée sur l'île frappée par de très lourdes sanctions américaines et un embargo pétrolier. La chute de Nicolas Maduro au Venezuela a encore compliqué l'approvisionnement en pétrole de l'île. Conséquence, ces coupures massives d'électricité.
En Colombie, cette fois, le président Gustavo Petro visé par deux enquêtes criminelles ouvertes aux États-Unis.
Et par des procureurs fédéraux américains, l'un à Manhattan, l'autre à Brooklyn. Information révélée vendredi par le New York Times. Les autorités américaines enquêtent sur de possibles liens entre le chef de l'État colombien et les trafiquants de drogue. L'affaire fait l'effet d'un coup de tonnerre en Colombie à deux mois de la présidentielle. À Medellín, Najed Benrabah.
Les enquêteurs cherchent à établir si Gustavo Petro a eu des contacts avec des narcotrafiquants et si son équipe de campagne présidentielle de 2022 a sollicité des financements auprès d'eux. Face à ces accusations, le président colombien a répondu sèchement sur les réseaux sociaux. Il nie tout contact avec le monde du narcotrafic en précisant n'avoir jamais été accusé de quoi que ce soit dans son pays. Selon lui, ces enquêtes viennent de la droite colombienne, de leurs amis qu'il a extradés et de leurs amis du département d'État américain. Pour Gustavo Petro, il ne s'agit pas d'une manœuvre de Donald Trump. Selon le New York Times, les enquêtes en sont à leur début et rien n'indique pour l'instant qu'elles aboutiront à des inculpations. Ces enquêtes arrivent à un moment délicat où la Colombie est au milieu d'un processus électoral pour choisir un nouveau président en mai prochain. Certains craignent l'instrumentalisation des faits pour tenter d'influencer le résultat du scrutin. Najed Benrabah, Medellin, RFI.
RFI, il est 5h07 en temps universel. La guerre au Soudan, Jeanne, et cette attaque contre un hôpital au Darfour Est.
Une attaque particulièrement meurtrière. Il y a au moins 64 morts, dont 13 enfants. L'ONG Emergency Lawyers, qui documente le conflit soudanais, a indiqué que l'attaque avait touché l'hôpital universitaire d'El Daïn, la capitale de l'état du Darfour Est, contrôlée par les paramilitaires des FSR et régulièrement la cible de l'armée soudanaise qui tente d'éloigner ces paramilitaires du corridor centrale du Soudan. Dans un communiqué cité par l'agence officielle Souna, l'armée soudanaise a affirmé respecter les normes et le droit international et sans accuser directement les FSR d'avoir attaqué l'hôpital, a souligné que ce type d'acte est une pratique persistante et une activité quotidienne des paramilitaires.
La tension politique monte d'un cran au Zimbabwe.
Et l'ancien ministre des Finances, désormais opposant, Tendai Biti, a été arrêté hier selon son organisation et des médias locaux, également avocat. Avocat de renom, Tendai Biti a pris la tête d'une fronde contre un projet de réforme constitutionnelle qui prévoit entre autres la prolongation du mandat de l'actuel président Emmerson Mnangagwa et la fin du suffrage universel direct pour l'élection présidentielle. Les détails avec Florence Maurice.
C'est au cours d'un rassemblement organisé à Mutare, dans l'est du pays, que l'opposant Tendai Biti a été arrêté en compagnie d'autres militants et de journalistes, selon son mouvement, le Constitution Defenders Forum. Il s'agit d'une plateforme citoyenne lancée en février par l'opposant pour mobiliser les Zimbabwéens contre un projet controversé de réforme constitutionnelle. Projet qui cristallise la colère de l'opposition et d'une partie de la société civile, car il contient deux nouveautés. La prolongation du mandat présidentiel de 2 ans, soit jusqu'en 2030. 2030 et la fin du suffrage universel direct pour la présidentielle, remplacé par un simple vote au Parlement, l'actuelle Assemblée étant largement dominée par le parti au pouvoir, la ZANU-PF. L'opposition dénonce un recul démocratique et une manœuvre destinée, selon elle, à contourner la limitation du nombre de mandats, car en l'état actuel de la Constitution, le président Mnangagwa ne pourrait pas se représenter pour un troisième mandat après 2028. Vu l'équilibre des forces, l'adoption de cette réforme aux deux tiers par le Parlement fait peu de doutes, d'où la fronde de l'opposition qui réclame à minima un référendum pour des changements aussi sensibles et importants.
Et Tendai Biti avait déjà été arrêté à plusieurs reprises ces dernières années, la dernière fois brièvement en 2022 en pleine campagne électorale.
Allez, direction la Slovénie, petit pays des Balkans où les électeurs justement sont appelés aux urnes ce dimanche.
Oui, pour élire les 90 membres de la Chambre basse du Parlement lors du dernier scrutin législatif en 2022, le pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants avait renversé le parti de droite nationaliste de Janez Janša, parfois qualifié de Trump slovène. Les électeurs avaient alors plébiscité le mouvement pour la liberté de Robert Golub. Aujourd'hui, les deux hommes sont tous les deux candidats à la présidence du gouvernement et leur parti sont au coude à coude dans les sondages au terme d'une campagne secouée par un scandale d'ingérence, Lila Olkinuara.
Début mars, des enregistrements audio apparaissent sur les réseaux sociaux et mettent en cause des proches du président sortant Robert Golob dans des affaires de corruption. Selon une ONG slovène, la société israélienne Black Cube, spécialisée dans le renseignement, serait à l'origine des audios et aurait des liens étroits avec le parti du conservateur Janez Janša. L'intéressé dément et dénonce une corruption sans précédent de l'élite de gauche. Le camp de Golob, lui, parle d'une attaque contre la démocratie. Une étape supplémentaire dans la bataille entre les deux hommes pour prendre la tête du gouvernement. Janez Janša, chef de la droite conservatrice à tendance nationaliste proche de Viktor Orban, est une figure centrale en Slovénie. Déjà nommé chef du gouvernement à trois reprises, il a été accusé d'atteinte à l'indépendance des médias et de dérive illibérale. Face à lui, le sortant Robert Golob au centre-gauche, sous son mandat, la Slovénie a autorisé le mariage et l'adoption pour les couples de même sexe. Il a employé le terme de génocide pour parler de la situation à Gaza, mais son bilan est terni par des accusations d'abus de pouvoir qui pourraient lui coûter sa place.
Et Lila Olkinuara. En France, le second tour des municipales, c'est aujourd'hui. Les bureaux de vote ouvrent dans deux heures dans l'Hexagone. C'est déjà fait du côté de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion et de Mayotte. Le scrutin avait été marqué au premier tour par une très forte abstention. La France, où plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées hier à Nanterre en mémoire de Naël Merzouk, adolescent de 17 ans, tué à l'été 2023 à bout portant par un policier qui contrôlait le véhicule qu'il conduisait. Sa mort avait provoqué plusieurs nuits d'émeutes. Le policier, auteur du tir, sera jugé pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner et non pour meurtre, comme l'espérait la famille du jeune homme. Décision de la cour d'appel de Versailles début mars. Décision inaudible pour les proches de Naël, qui appellent donc à maintenir la pression. Reportage à Nanterre, Magali Arouais.
Justice, complice, police, raciste.
Une marée humaine pour dénoncer une justice jugée défaillante. Yacine, 25 ans, marche depuis 4 ans contre les violences policières, indignée par la mort de Naël et avant lui, d'Adama Traoré.
On sera toujours derrière les familles. Donc, 3 ans après, on sera là. Dans 5 ans, on sera là. S'il faut aller à la Cour européenne des droits de l'homme, on sera là. Il y aura tous les quartiers d'Île-de-France et de France qui seront derrière la famille de Naël.
La famille et les proches qui contestent l'arrêt de la Cour d'appel. Le policier auteur du tir ne sera finalement pas jugé pour meurtre, mais pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La peine maximale encourue est 2 fois moins lourde, décision qui révolte Mornia Lapsi, co-organisatrice de la manifestation.
Inique, injuste, scandaleuse, et elle fait l'objet de pourvois en cassation de toute façon, et on espère que les juges auront le bon esprit de rendre la bonne décision.
La marche se conclut par la diffusion d'une vidéo sur grand écran montrant des dizaines d'images de violences policières dénoncées par ces manifestants.
Le reportage à Nanterre de Magali Arouais.
Jeanne Bartoli pour les informations. 5h13 en temps universel. Bon dimanche sur RFI. On va passer 3 heures ensemble et lui, il laisse 48 heures à l'Iran pour débloquer le détroit d'Ormuz. Ultimatum posé par Donald Trump alors que le trafic maritime est à l'arrêt depuis plus de 3 semaines maintenant dans la zone. Une vingtaine de pays assurent être prêts à contribuer à la sécurité de la circulation. Et puis, des entreprises travaillent aussi sur des drones sous-marins qui pourraient désactiver d'éventuelles mines posées sur le trajet. Reportage de Franck Alexandre à écouter dans une heure. On va aussi parler du second tour des élections municipales en France avec des résultats qui s'annoncent très serrés pour les mairies des 3 plus grandes villes françaises, Paris, Marseille, Lyon. Émission spéciale d'ailleurs sur RFI à partir de 19h, temps universel plus tard. Et puis on conclut sur RFI la semaine de la francophonie avec nos correspondants dans plusieurs pays qui parlent le français, chacun à sa manière. Et ça donne une belle diversité. Rendez-vous dans un peu plus d'une heure.
RFI Matin.
Mais d'abord, c'était il y a 10 ans, jour pour jour, le 22 mars 2016, les attentats de Bruxelles. Quelques mois seulement après ceux de Paris, perpétrés par la même équipe de terroristes et revendiqués par l'organisation État islamique. Un peu avant 8 heures, des kamikazes font d'abord exploser 2 bombes à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. Une heure plus tard, un autre kamikaze active une bombe à la station de métro Malbec. Bilan total, 35 morts, 340 blessés, ce sont les attentats les plus meurtriers de l'histoire de la Belgique. Et 10 ans plus tard, la capitale reste marquée par ces attaques. À Bruxelles, reportage de Jean-Jacques Héry.
Quand l'innommable devient réalité, nos cœurs doivent encore plus battre à l'unisson et crier Bruxelles, fraternité.
On se reverra, petit ange.
Parce qu'on continuera à s'aimer.
Tu étais là où il ne fallait pas, j'ai pas su te protéger. Pardon.
Merci à tous les soignants et secouristes.
Je t'aime.
Bruxelles chante même Gilles dans la difficulté.
Tu me manques, je porte.
Reconnaissance infinie et gratitude d'être en vie.
Au mur de la station de métro Malbec, une plaque vitrée de plusieurs mètres de long abrite depuis 10 ans des messages de soutien et d'espoir rédigés quelques semaines après les attentats. Au niveau inférieur, sur le quai, Georges, 84 ans, 74 à l'époque, se souvient.
Moi, j'étais à 6,50 m de la bombe. Je crois que j'étais un des plus proches de ceux qui sont sortis de vivants de là. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y avait des sièges là et ils m'ont un peu protégé. J'avais le crâne 3e degré brûlé, mes mains brûlées et la figure brûlée au 2e degré. Je me suis évanoui peut-être une fraction de seconde, mais je me suis retrouvé, je ne sais pas comment, debout. Et comme mes jambes étaient plus ou moins intactes, j'ai couru tout en haut. Comment j'en suis sorti ? Je n'en sais rien.
Sur place, à Malbec, tout est désorganisé car la plupart des secours sont à l'aéroport, là où les premières bombes ont explosé une heure plus tôt. Gaëtan Mollmann, secouriste occasionnel, intervient et participe à la mise en place d'un hôpital de guerre au rez-de-chaussée d'un hôtel voisin.
C'est le chaos total. Les premières victimes ont été posées à même le sol, sans matériel. Il faut attendre que les secours arrivent. On a fait le maximum de ce qu'on a pu avec les moyens qu'on avait. Mettre des perfusions pour pouvoir mettre des voies d'entrée. Il faut compenser les hémorragies, les brûlures, mettre les antidouleurs. On est face à des plaies qu'on n'a pas l'habitude de voir. Polycriblés, c'est des brûlures.
Et puis il y a l'après.
Tous les intervenants, quels qu'ils soient, on a été confrontés à l'horreur. Personne n'était prêt ce jour-là. Personne. Mon entourage, ma famille ont essayé de me dire que j'allais pas bien. Mais moi, foutez-moi la paix. Et puis j'ai vu un psychologue. Je n'avais jamais vu de psychiatre et de psychologue avant le 22 mars. Puis on se rend compte que, ben non, on n'est pas indemne, on a perdu les plumes.
10 ans plus tard, la date du 22 mars résonne pour chaque Bruxellois. Chacun, chacune se rappelle où il était à ce moment-là et ce qu'il faisait lorsque les bombes ont explosé. Nathalie et Gina travaillent au sein des institutions européennes voisines.
On croise dans les couloirs des collègues qui gardent des séquelles des attentats, hein, des personnes défigurées.
We all remember the ones who were...
Nous nous souvenons de ceux et celles qui étaient ici. Nous continuerons à nous en souvenir et nous espérons que quelque chose comme ça ne se reproduira jamais.
Happen again.
Un message d'espoir partagé par de nombreuses victimes avec un mot qui revient souvent, celui de résilience, mais aussi une peur, celle de l'oubli et la crainte que peu à peu, le nom des victimes s'efface des mémoires. Jean-Jacques Héry, Bruxelles, RFI.
Et plusieurs cérémonies de commémoration sont prévues ce matin à Bruxelles, 10 ans donc après ces attentats. De nouvelles discussions ce week-end en Floride entre négociateurs américains et ukrainiens. Plus de 4 ans après le début de l'invasion russe en Ukraine, Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, a fait état de réunions constructives. Elles doivent se poursuivre aujourd'hui, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Mais pour le moment, la guerre continue. Difficile de savoir jusqu'où la Russie ira et ce que le Kremlin veut réellement en dehors du discours officiel, partagé et soutenu d'ailleurs parfois à l'étranger par certaines personnalités. Alors comment justement reconnaître ce discours ? Eh bien, Victor Stokowski, chercheur au laboratoire d'anthropologie sociale du Collège de France, donne des clés de compréhension dans son ouvrage « Penser comme Poutine, une menace pour nos démocraties ». C'est aux éditions du CERF. Il répond aux questions de Romain Lemaresquier.
Monsieur Stokowski, bonjour.
Bonjour.
Alors monsieur Stokowski, pouvez-vous nous expliquer votre démarche dans cet ouvrage ?
Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, on entend en France des gens qui expliquent cette guerre en reproduisant les thèses de la propagande poutinienne. Ces thèses sont reprises par deux catégories de relais. D'une part, il y a des propagandistes manifestement financés par le Kremlin, mais d'autre part, il y a en France des personnalités, et pas le moindre, qui parlent comme Poutine, non pas parce qu'ils sont à la solde de Poutine, mais parce qu'ils pensent comme Poutine. C'est à cette seconde catégorie que je m'intéresse dans mon livre. Et j'ai cherché à comprendre pourquoi des gens, parfois très instruits, pouvaient trouver crédibles les contre-vérités de la propagande russe.
Quels sont les principaux points qui structurent l'idéologie du Kremlin ?
L'objectif de la propagande du Kremlin est triple. Il s'agit d'abord de brouiller l'Europe avec les États-Unis afin de nous priver du soutien américain. Il s'agit ensuite de diviser les pays d'Europe pour les priver de la force de leur union. Et il s'agit enfin de nous convaincre que notre régime démocratique est décadent et voué à disparaître. Pour atteindre ces objectifs, la propagande russe cherche à nous imposer deux conceptions partiellement distinctes. La première conception donne à voir un tableau idyllique de la Russie poutinienne. C'est une Russie prospère, virile, patriotique, gardienne de valeurs traditionnelles. À cette image s'oppose celle d'un Occident dégénéré qui aurait trahi les valeurs traditionnelles pour les remplacer par une seule valeur, l'argent. Nos élites, prétendument motivées par l'appât du gain, livreraient leur propre peuple à la domination américaine. Maintenant, aux esprits plus sceptiques et qui se veulent réalistes, Poutine propose une conception différente, fondée sur l'idée d'un machiavélisme partagé par tous les régimes politiques. Sa thèse centrale est que les dictatures et les démocraties sont pareillement viles et manipulatrices. Les unes et les autres seraient dirigées par des oligarchies cyniques. Ces oligarchies s'emparent du pouvoir pour en tirer un maximum de profits. Partout, ils trompent leur peuple en contrôlant les médias. Et ce qui est commun à ces deux conceptions, c'est l'objectif qu'elles poursuivent. Dans les deux cas, il s'agit de déprécier la démocratie, de nous convaincre que nos démocraties ne méritent pas d'être défendues. Le but est de nous persuader que la dictature russe, loin de nous menacer, serait en mesure de nous sauver de la prétendue menace américaine.
Alors est-ce que cette pensée de Vladimir Poutine, si on peut la qualifier ainsi, est réelle ou bien n'est-ce qu'une façade, une stratégie ?
Il est très difficile de répondre à cette question car nous ne connaissons que les discours officiels de Poutine. Et leur objectif n'est pas de nous informer sur ce que le dictateur russe médite dans son fort intérieur, mais de nous manipuler et de nous désorienter. On retrouve toutefois chez Poutine plusieurs thèmes récurrents qui pourraient correspondre à ses convictions véritables. Par exemple, l'idée que les sociétés occidentales sont dégénérées, faibles et facilement manipulables. Il semble également considérer que la Russie est menacée. Ce qu'il omet de dire, c'est que cette menace ne pèse pas sur la Russie elle-même, mais seulement sur sa dictature, et qu'elle ne vient pas de nos armées, très faibles en réalité, mais de l'idéal démocratique que symbolisent nos pays européens. Et si cet idéal est perçu par les régimes comme une menace, c'est parce que cet idéal fascine le peuple russe. En réalité, Poutine ne craint pas l'OTAN, mais son propre peuple. Pour lui, le principal danger est l'aspiration des Russes à la démocratie. Et c'est pourquoi sa propagande s'efforce tant de déprécier la démocratie.
Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Stokowski, pour cette interview.
Je vous en prie.
Et je rappelle le titre de votre ouvrage, « Penser comme Poutine, une menace pour nos démocraties », paru aux éditions du CERF.
Voilà, Victor Stokowski, interrogé par Romain Le Maresquier. Jusqu'où va la science ? Bonjour Caroline Lachowski.
Bonjour Clotilde.
On va aller assez loin cette semaine dans votre chronique puisqu'on va explorer les organes du corps humain en 3D, naviguer dans le foie, le cœur, les poumons, un petit peu comme on navigue sur Google Earth, avec un niveau de détail en plus sans précédent. C'est accessible à tous désormais, en ligne, Caroline, sur le nouveau portail de l'Atlas des organes humains.
C'est pendant l'épidémie de Covid-19 que les chercheurs du synchrotron européen de Grenoble ont développé cette très puissante technique d'imagerie, la microtomographie synchrotron, qui leur a permis d'imager en 3D avec une précision jamais atteinte les poumons des patients décédés de la Covid et de révéler des lésions vasculaires jusque-là invisibles. Cette méthode de pointe a ensuite été perfectionnée et appliquée à d'autres organes, comme le cœur par exemple, permettant des avancées scientifiques et thérapeutiques majeures. Dès le début, souligne le chercheur Paul Taforo, pionnier de cette technique d'imagerie au synchrotron de Grenoble, l'idée était de partager ces données à l'échelle mondiale, de créer une ressource, un atlas des organes humains accessible à tous. Chercheurs, médecins, enseignants, étudiants, mais aussi à toute personne curieuse de comprendre comment le corps humain est constitué. C'est désormais chose faite avec le lancement d'un nouveau portail 3D en libre accès de la toute dernière version de l'Atlas des organes humains, annoncé dans la revue Science Advance par l'équipe internationale de chercheurs du synchrotron de Grenoble et de l'University College de Londres.
Alors, quels organes est-ce qu'on peut explorer dans cet atlas en 3D ?
56 organes différents, dont le cerveau, le cœur, les poumons, les reins, le foie, le côlon, la rate, le placenta, l'utérus, la prostate et les testicules comme vous ne les avez jamais vus et pour cause. On peut s'immerger et même zoomer de l'organe entier jusqu'à la plus petite de ses cellules avec une résolution parfaite, jusqu'à 1000 milliards de fois plus brillante que les scanners hospitaliers conventionnels. Grâce à une nouvelle technique synchrotron avancée développée ces 5 dernières années par les chercheurs. Une technique appelée tomographie hiérarchique en contraste de phase qui permet de scanner des organes humains entiers, intacts, ex vivo de manière non destructive et puis de zoomer jusqu'à une résolution quasi cellulaire inférieure à 1 micron, soit 50 fois plus fin qu'un cheveu humain. Je vous laisse imaginer les retombées de cette formidable avancée en bioimagerie pour la recherche scientifique et médicale mais aussi pour l'enseignement de l'anatomie et pour le partage des connaissances. Cet atlas est une ressource extraordinaire qui va continuer de s'enrichir, a souligné la professeure Claire Walsh de l'University College de Londres, qui dirige le hub et le site de cet atlas 3D des organes humains, ajoutant qu'elle est enthousiaste à l'idée de voir comment la communauté de l'intelligence artificielle, en manque de données pour nourrir les systèmes d'IA médicale avancée, va s'en emparer. À suivre donc, et en attendant, n'hésitez pas à vous immerger en 3D dans les secrets de nos organes. Franchement, ça vaut le détour.
Oui, pour les auditeurs qui seraient intéressés, l'adresse du site internet, c'est en anglais, human-organ-atlas.esrf.eu. Merci beaucoup, Caroline Lachowski. Dans un instant, sur RFI, l'actualité internationale. Mais d'abord, la pépite musicale de Guillaume Thibault. Cette semaine, il a rencontré au festival Babel Music XP à Marseille un jeune pianiste palestinien. Il s'appelle Issam Elias.
Si le monde cherche un moyen pour recharger ses batteries, pour mettre de l'allégresse dans nos vies, Issam Elias est une sacrée carte à jouer. La piste de sa vie musicale débute à Nazareth, où il est né en 1991. C'est là que la musique l'a attrapé.
Oui, il y a une chanson libanaise pour un mec qui s'appelle Ala Zalzali. Toute la famille. Il dit, What can I do to make you believe I love you?